Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Jacques Planchon, directeur de la culture et du musée de Die et du Diwa, et monsieur Pierre Sapet du département, chargé sans doute du patrimoine, peut-être qu'il me corrigera tout à l'heure, qui est au téléphone de Valence et qui va nous présenter, tous les deux vont nous présenter ces fameuses journées européennes du patrimoine qui vont avoir lieu le 20 et le 21 septembre 2014. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre Sapet, alors, je ne sais pas si je vous ai bien présenté, peut-être pourriez-vous me rectifier. Comment aurais-je dû vous présenter d'ailleurs ?
Non, très bien. Si vous voulez, peut-être à défaut de présenter le service, mais très rapidement, de la conservation départementale du patrimoine, qui est un service qui est en charge pour le département de la Drôme de conduire la politique patrimoniale du territoire autour de tout ce qui fait patrimoine, on va dire, sur le territoire drômois, et d'accompagner un certain nombre d'acteurs du patrimoine, que ce soit des communes ou des associations dans leur démarche. Et c'est tout naturellement que la conservation du patrimoine, dont je suis l'un des chargés de mission, nous sommes une petite équipe de 8 personnes, eh bien, s'occupe de ces journées du patrimoine et s'implique dans ces journées européennes du patrimoine.
Alors justement, allons droit au but. Que sont ces journées européennes du patrimoine? Depuis quand ça existe? Et qu'est-ce qui est proposé aux Français de visiter en fait?
Écoutez, d'abord c'est avant tout pour nous un moment, et je pense que Jacques dira la même chose, Planchon, un grand moment pour nous, puisque c'est l'occasion, et vous en êtes l'illustration, de faire passer un message à la presse et aux radios libres, et puisque c'est un moment où il y a une focalisation sur ce qui nous anime tout au long de l'année. Et ce sont des journées qui sont, comme vous l'avez dit, européennes, donc c'est-à-dire qu'elles ont été initiées par Jacques Lang il y a 31 ans maintenant, et elles ont largement débordé des frontières de l'Hexagone pour aujourd'hui être réappropriées, on va dire, par l'ensemble des nations européennes, ou en tout cas une grande partie d'entre elles. Les journées européennes du patrimoine, c'est aussi un thème, c'est-à-dire que chaque année elles sont millésimées et le ministère de la Culture donne des orientations, et cette année le thème c'est patrimoine culturel et patrimoine naturel. C'est l'occasion justement pour nous d'interroger en quelque sorte ces thématiques-là à travers le patrimoine que nous côtoyons au quotidien, et d'essayer de faire découvrir de nouvelles choses ou d'avoir une nouvelle approche sur des éléments du patrimoine que nous connaissons fort bien, soit dans nos collections, je pense à Jacques Planchon qui sans doute l'évoquera par rapport au musée 10, c'est l'occasion de faire ressortir certains aspects des collections, soit sur le patrimoine bâti du territoire drômois, comme nous le faisons par rapport à des équipements départementaux, où nous souhaitons justement nous adapter le plus possible à cette thématique et être inventif.
Justement, naturel, comment ça vous parle, ce patrimoine naturel? Qu'est-ce à dire, Kézako? Vous mettez en valeur des forêts, ou en tout cas, par exemple, des petits Trianon comme à Sous, entourés d'un cocon de verdure?
Écoutez, le patrimoine naturel, c'est avant tout évoquer, c'est le lien entre culture et naturel, hein, c'est évoquer les liens qui unissent définitivement, finalement, le patrimoine sous toutes ses formes, à l'environnement minéral, végétal, urbain, littoral, on est un peu moins concerné chez nous, mais enfin, en tout cas, champêtre, et ceux qui côtoient, ou parfois le sublime, et c'est le cas effectivement de lieux comme la forêt de Soux dans la Drôme, qui est un lieu qui est avant tout un espace naturel sensible, un site qui est protégé aussi en termes d'espace naturel, et c'est également un lieu où il y a une histoire patrimoniale liée à un homme, puisque finalement il y a une conjugaison de l'être humain et de la nature qui se produit souvent, et ça a été le cas dans la forêt de Soux avec la création de la villa Tibure, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais on peut encore voir, et c'est un monument assez singulier, c'est l'auberge des dauphins à Soux qui a été réalisée par un homme un peu fantaisiste qui était Maurice Burus, mais assez génial en même temps, qui fera réaliser une copie du petit Trianon. Et c'est un édifice donc que nous invitons à redécouvrir à travers un sentier patrimoine Mais attention, j'assiste à ce sujet. L'édifice n'est visible que de l'extérieur. Pour le moment, un projet est en cours de définition sur ce lieu. Mais l'idée est évidemment de donner du sens à ce lieu, à cette forêt, et de proposer un sentier patrimoine, comme nous en proposons d'ailleurs 6 autres sur le département, autour de cette thématique, associant à la fois l'homme et les espaces naturels.
Parlez-nous un petit peu plus de ces sentiers, puisque quand je vois le prospectus concernant ces journées du patrimoine, on retrouve un certain nombre d'incontournables, hein, que ce soit Grignan, Suze-Larousse, Vassy-en-Vercors. Par contre, les sentiers.
Nous sommes recentrés pour cette 31e édition sur plutôt des équipements départementaux, parce que ce qu'il faut saluer, c'est quand même l'ensemble de l'action qui est conduite par les associations patrimoniales, les structures sur les 369 quasiment communes de la Drôme. Mais nous, au niveau départemental, nous avons souhaité insister sur les trois châteaux de la Drôme, qui sont le château de Montélimar, Grignan et Suze-Larousse. Également, je l'ai évoqué rapidement, la forêt de Soux, mais aussi le musée départemental de Vassieux, qui n'est pas très loin d'ailleurs de Die, et un équipement qui est la véloroute voie verte Vallée de l'Isère, qui a récemment été aménagée par le département et qui part de la confluence du Rhône et de l'Isère jusqu'à Saint-Nazaire-en-Royan. Alors, si on doit prendre les choses dans l'ordre, pour le château de Montélimar, nous avons souhaité mettre en place un sentier patrimoine qui propose un cheminement depuis le centre de Montélimar jusqu'au château. Et ce sentier patrimoine s'intitule du Palais à la Citadelle et c'est une découverte d'environ 1h30 que nous proposons, indépendamment bien sûr des visites libres du château qui sont toujours possibles et de la découverte de l'exposition Bill Kubert, hein, qui est liée au centre d'art contemporain des Adhémar. Également à Grignan, un sentier patrimoine avec la marquise autour du parcours Sévigné. On part du château à la découverte des relations du monument historique et des paysages avec comme fil conducteur, bien sûr, Madame de Sévigné, les paysages vus des terrasses, les lieux emblématiques de la marquise, les créations de jardins, etc. Ça, c'est une visite qui se fait sur réservation et qui est limitée à une trentaine de personnes et qui dure une petite heure. Également, pour terminer sur le troisième château, c'est le petit dernier aussi, pourrait-on dire, au niveau muséographique, c'est le château de Suze-Larousse, où un sentier patrimoine que nous avons initié, qui dure 2h30, qui parle du château et des vignobles qui l'entourent, qui s'intitule du château aux vignobles, et qui est une promenade à pied, au départ du château de Suze-Larousse, jusqu'au château Laborie, ou à proximité en tout cas. Et c'est l'occasion de mettre en résonance un terroir, un territoire, un château, et en même temps de mettre en valeur cette nouvelle muséographie consacrée au patrimoine vitivinicole qui a été mise en place cette année au château de Suze-Larousse. Et pour terminer, peut-être les deux autres sentiers patrimoine, s'il y en a 6 au total, sans être trop long. Je vous parlais tout à l'heure du musée départemental de la Résistance, et donc là il y a un sentier patrimoine qui est proposé, qui s'appelle Résistance et Mémoire. Là également, c'est une promenade à pied d'environ 1 heure qui part du musée. Elle est ouverte d'un des plus importants maquis de France pendant la Seconde Guerre mondiale et une présentation des sites, on va dire témoins de cette histoire, des bâtiments reconstruits, des monuments et qui, en gros, part du musée départemental de Résistance jusqu'au mémorial de la Résistance, au col de la Chaux, où on a un panorama assez exceptionnel sur cette plaine fabuleuse qui est celle de Vassieux. Et pour terminer, donc, ce que je vous évoquais, cette véloroute voie verte, puisque c'est, comme vous le savez sans doute, également la semaine de la mobilité et des véloroutes voie verte sur ces 2 jours. Et donc, ça nous semblait essentiel de mettre en résonance à la fois les journées du patrimoine et ces journées de la mobilité en proposant une promenade à vélo, tout simplement, d'environ 7-8 kilomètres à la découverte de cette longue Isère, de la rivière Isère, à la découverte de ce qui constitue son patrimoine naturel, mais à la fois aussi le patrimoine arboricole, agricole, puisque c'est un paysage aussi qui est sculpté et façonné par les hommes, l'histoire d'irrigation, jusque dans le centre du village de Châteauneuf-sur-Isère, nous terminerons cette visite à la rencontre de ce qui est aussi une dimension naturelle et un travail de l'homme, c'est-à-dire les anciennes carrières de pierre de Châteauneuf-sur-Isère qui ont produit cette fameuse pierre qui s'appelle la molasse, qui est une pierre très friable, on parle d'ailleurs de paysage de sable et qu'on retrouve sur un grand nombre d'édifices, y compris d'ailleurs, il me semble, dans certains édifices de Die. Voilà un petit peu ce qu'il en est de ces sentiers patrimoine. sans oublier deux autres lieux qui ne font pas l'objet d'un sentier, mais qui pour nous sont importants, à la fois les archives départementales de la Drôme, qui ouvrent leurs portes, c'est l'occasion de voir l'envers du décor, et qui d'ailleurs propose la visite libre d'exposition, l'une consacrée à la guerre 14-18, donc là on est loin du patrimoine naturel, mais on est dans une thématique qui est celle de la commémoration, et, mais aussi des magasins, l'ouverture des magasins de la conservation avec des présentations de documents originaux en lien avec le thème des journées du patrimoine sur notamment des fonds de l'Office national des forêts. Et enfin, quelque chose qui est toujours très apprécié, et on a aussi essayé là de l'adapter cette année, la visite du Conseil général et de la préfecture, c'est-à-dire les cas de réception, c'est-à-dire vous savez, on a souvent l'habitude d'aller dans les préfectures pour faire des cartes grises, papiers administratifs, mais il y a derrière aussi l'envers du décor, c'est salle de réception d'un édifice qui a été construit dans les années 60, qu'on vous propose de découvrir ainsi, et pour l'adapter au thème, que les jardins et les abords, les jardins de la préfecture et les abords de la préfecture qui ont été dessinés à l'époque par un architecte qui s'appelait à l'époque Maurice Bigny et que sur lequel nous essaierons d'apporter un éclairage. Voilà, je vous ai vraiment livré beaucoup de choses rapidement. Après, la question des horaires, je ne peux pas vous assommer d'horaires. L'idée, c'est peut-être de se procurer les informations relatives à ces différentes manifestations que le département propose, soit sur le site internet du département, ladrome.fr, où vous pourrez le trouver en ligne, soit en vous rapprochant des différents offices de tourisme où nous avons et médiathèques où nous avons déposé les liens relatifs à ce vaste programme qui n'est qu'un écho finalement aussi à ce qui est organisé dans le Diois, puisque je sais qu'il se passe aussi beaucoup de choses du côté de Tissy.
On va voir ça très rapidement. Je vous remercie, Pierre Sapet. Juste corrobore ce que vous dites en disant que sur la page dédiée à cette émission, on trouvera effectivement des précisions. On mettra un hyperlien qui pointera sur le site du département sur lequel vous aurez des précisions, des horaires. Ça, ne vous inquiétez pas, on va pas dans une émission de radio s'appesantir sur ces détails. Dernière petite question avant de passer le micro à Jacques. Seraient tous ces petits sentiers qui sont l'objet un peu du thème, hein, patrimoine naturel, patrimoine culturel, ont fait l'objet d'investissements particuliers qui vont rester, qui vont perdurer dans le temps? Ou est-ce que vous n'avez fait que remettre en valeur des sentiers déjà existants sans plus de cérémonie ni de frais?
Alors, un petit peu les deux. C'est-à-dire que c'est une très bonne question. L'occasion des Journées du patrimoine, c'est l'occasion de lancer ces sentiers, quelque part, du patrimoine que nous souhaitions. Alors, nous sommes appuyés à la fois sur des sentiers existants, des GR qui existaient, puisque vous savez qu'il y a évidemment un certain nombre de droits à respecter sur la propriété privée. Donc, il y a un cheminement. Lorsqu'on chemine dans les vignes, il y a des chemins à respecter pour ne pas endommager les cultures. Donc nous sommes appuyés à la fois sur des chemins existants, mais nous avons vraiment construit quelque chose qui à la fois part des châteaux, hein, si on prend l'exemple des châteaux, traverse l'environnement urbain de ces derniers, et puis ensuite chemine en étant raccord avec des chemins de randonnée pédestre. Mais on a vraiment construit ces sentiers afin de guider les personnes pour qu'elles puissent éventuellement y retourner et s'y retrouver. Dans un second temps, nous avons édité des brochures qui font entre 12 et 8 pages, donc 6 brochures différentes qui seront remises en main propre aux personnes qui participeront et puis qui ont destination à être diffusée dans les châteaux pour ceux qui souhaiteront continuer l'aventure indépendamment des journées du patrimoine. Et j'allais dire que l'aventure ne s'arrête pas là, parce que pour nous c'est une première étape. L'idée c'est que ces sentiers patrimoine deviennent des sentiers numériques et que à terme on puisse justement avoir un point de départ et un point de marqué par une signalétique, le point de départ de ces parcours, et qu'ensuite les personnes puissent être autonomes, alors soit avec le papier, hein, comme nous l'avons réalisé et on essaiera de faire en sorte que ça puisse être diffusé largement, soit avec, lorsque c'est possible, des smartphones, et l'idée est dans les deux années qui viennent, eh bien de développer l'idée d'itinéraires interactifs avec des approches de réalité augmentée, des inclusions de vidéos, de sites prises, pourquoi pas avec tout ça est en construction avec des images d'après des drones. Donc il y a la volonté de les faire vivre, de les structurer, on va dire, et les zones du patrimoine, vous voyez, ça peut aussi servir à ça, c'est pour nous l'occasion de lancer cette initiative sur ces équipements et de leur donner ensuite une seconde vie, une autre vie numérique pour permettre à chacun d'entre nous de s'y retrouver, soit sur une approche, comme je vous le disais, plutôt papier, parce qu'on ne peut pas se couper complètement du papier, parce qu'on n'a pas non plus la possibilité d'avoir toujours des réseaux là où on se trouve, hein, à Passion-Vercors par exemple, on sait très bien que c'est pas toujours très simple d'avoir du réseau, soit en s'appuyant sur les nouveaux outils qui sont aujourd'hui à notre disposition et qu'il est intéressant d'utiliser à des fins, j'allais dire, pédagogiques, et des fins en utilisant leur potentiel, hein, c'est-à-dire que avec des possibilités que le numérique, de vue aérienne et autres qui sont tout à fait intéressantes à exploiter.
Comme vous le dites, c'est un début, c'est une prolonge d'une impulsion, et donc d'ici peu, 2, 3, 4 ans, nous aurons des parcours avec des audioguides, des inclusions numériques, etc. Merci Monsieur Sapet. Jacques, je me tourne vers Jacques maintenant. Donc, patrimoine naturel, patrimoine culturel, ce thème, qu'en avez-vous fait? Vous en êtes-vous approprié pour mettre en valeur le patrimoine lors de ces journées?
Alors justement, nous, on a un petit peu travaillé sur le thème lui-même et on s'est dit, culture-nature, bon, il n'y a pas forcément d'opposition. Et de toute façon, on a fait un petit travail qui avait déjà commencé il y a quelques années, notamment avec le parc du Vercors, sur la perception qu'on peut avoir des paysages naturels, qui en fait n'ont rien de naturel, sont des paysages anthropiques, puisque ça fait maintenant environ 15 000 ans que l'homme marque le territoire de son empreinte. Alors évidemment, il y a 15 000 ans, la marque était très petite. Et puis petit à petit, avec le néolithique, la déforestation pour obtenir des pâturages pour les bêtes, la montée en puissance des troupeaux, de l'élevage, et puis l'emprise urbaine, ou l'emprise humaine en tout cas sur le territoire, le paysage a énormément évolué, sans parler des changements climatiques, qui évidemment influent énormément. Alors bon, différencier l'influence d'un changement climatique et l'influence humaine, c'est pas toujours simple. Les deux sont en interaction, comme d'ailleurs on s'en aperçoit très bien maintenant, puisque c'est l'homme qui est à l'origine des derniers changements climatiques que nous vivons. Donc pour ça, on a pensé utile de faire un petit rappel, et ça sera vendredi à 18h30, dans la grande salle de l'évêché, enfin du palais social, avec une conférence à deux voix entre Jacques-Léopold Brochier, qui est archéo-géologue, qui va nous parler justement de ce survol sur 15 000 ans d'emprise humaine sur le paysage, et donc de ce qu'on peut différencier entre paysage naturel et paysage humain, donc d'une certaine façon paysage culturel. Et puis ça sera suivi par une petite conférence de Juliette Roland, qui elle a énormément travaillé, enfin qui est sociologue, qui a énormément travaillé à partir de photos, un fonds de photos privées sur lequel qu'elle a beaucoup étudié, et qui nous propose aussi une lecture de ce paysage, à la fois en termes de photographie, et donc une lecture artistique, mais aussi une lecture sociologique de ce paysage. C'est-à-dire comment, à travers la photo du début du XXe siècle, on représente un paysage, qu'est-ce qu'on met en valeur, et qu'est-ce qui rentre dans ce paysage, justement, avec, évidemment, un mix entre culture et nature. Alors la culture, c'est évidemment de la culture humaine, ça peut être du patrimoine, comme on l'entend en général, c'est-à-dire au sens strict, des monuments historiques, des monuments importants, quelque chose de construit. Ça peut être un autre type de patrimoine aussi, qui est le patrimoine industriel. Au début du XXe siècle, une ville, un pays est toujours assez content de son paysage industriel et essaie de le mettre en valeur par les cartes postales. Et puis c'est évidemment, en fond de photos, bah, tout le paysage semi-naturel, en tout cas le paysage boisé ou déboisé, on parlera un petit peu de ça, qui apparaît. Voilà, donc une série de deux petites conférences à partir de 18h30 au Palais Social le vendredi, donc la veille des Journées Européennes du Patrimoine. Et puis après, évidemment, pour les Journées Européennes elles-mêmes, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, il y a un programme qui est, alors je dirais pas habituel, qui est les monuments de Die, de toute façon, sont mis en valeur, sont ouverts au public et sont visitables.
Vas-y, une petite liste presque exhaustive de ce que on pourrait visiter à Die, gratuitement, je suppose.
Alors tout est gratuit, oui, tout à fait. Ça, c'est un peu le truc des Journées du Patrimoine, c'est-à-dire c'est Les gens circulent, ils ont commencé par découvrir le patrimoine autour de chez eux, sur leur pas de porte. Maintenant, ça fait 30 ans, donc logiquement, les gens ont une petite connaissance de ce qui se passe autour de chez eux. Ils rayonnent de plus en plus loin. Et ça serait dommage, en effet, qu'on ne fasse couvrir des documents, des monuments qui sont peu ouverts dans le reste de l'année et qu'on en profite aussi pour fermer les musées. Ça serait dommage. Donc, autant tout mettre à disposition. Et gratuitement, en effet, pour ces gens qui viennent découvrir des patrimoines de plus en plus lointains par rapport à leur pas de porte. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, si vous avez suivi la conférence du vendredi, donc de la veille, à partir du samedi, il faudrait peut-être commencer par une montée au clocher de la cathédrale, qui permet justement de bien s'imprégner de ces paysages naturels et de ces paysages culturels, puisqu'on a à la fois une vue sur la ville de Die, les toits, les monuments, etc. Et puis une vue qui est quand même 360 degrés et qui est absolument merveilleuse sur tout le paysage autour, avec le Glandas, un petit bout du Vercors, on voit le Vémont, enfin on voit quand même pas mal de choses, en espérant que le temps le permettra évidemment, en tout cas pour la vue. Et puis après, étant la cathédrale, on est dans le centre-ville, il faut en profiter impérativement pour passer par le salon de la sous-préfecture, parce que celui-là n'est pas ouvert au public dans l'année, il est vraiment ouvert pour ces journées du patrimoine. Il y a un petit document de présentation qui va être disponible à l'entrée, qui explique un petit peu l'histoire de l'installation de cette sous-préfecture dans cet hôtel particulier du XVIIIe siècle. Et puis après, ça va être au choix. Tant qu'on est dans le quartier, là aussi, profiter du salon chinois, qui est ouvert, comme tous les ans, pour les gens du patrimoine, mais qui est aussi ouvert tous les samedis. Étant au salon chinois, il faut impérativement passer, si vous ne l'avez pas encore fait, par la chapelle Saint-Nicolas et sa mosaïque médiévale. Enfin, c'est quand même une des 5 mosaïques médiévales intégralement conservées en France. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il faut impérativement s'y précipiter. Ça, c'est... En sachant que la visite est quand même un petit peu complexe, pas parce que c'est difficile, simplement parce que la pièce est petite, et donc les groupes sont limités à une quinzaine de personnes à peu près. Donc il risque d'y avoir un petit peu de queue, mais en s'y prenant bien, ça devrait passer sans problème. Et puis, sinon, il y a une visite du quartier Saint-Marcel qui est proposée, une visite de l'abbaye de Valcroissant. Ça aussi, c'est quelque chose d'incontournable. L'Office de Tourisme, cette année, propose une visite guidée de la ville sur le thème « En passant par les trois portes », ce qui est assez intéressant. Enfin, moi, je pense que je vais me la faire. Et puis dernière chose, je crois que j'en ai oublié un, évidemment. J'oublie forcément celui où je travaille.
Le musée.
Le musée qui sera ouvert sans arrêt entre 17 et 17 heures, en continu, donc sur les deux jours. Et qui va proposer des visites guidées à 15h en essayant de garder ce thème patrimoine naturel, patrimoine culturel. Et donc qui a organisé évidemment la veille la conférence paysage du vendredi soir.
Je ne vais pas approfondir pour ne pas non plus faire des inventaires à la Prévert. Je voudrais rebondir sur ce que M. Sapé a dit tout à l'heure sur concevoir des sentiers balisés. Or, rappelle-toi, à un moment, nous avions eu l'idée que je te suive avec un micro pour faire une visite de tout le musée. Tu m'avais dit, oh là là, mais à ce compte-là, on en a pour 3 heures. Et il faudrait que je me limite. Voilà. Mais est-ce que vous avez des projets de cet acabit de réaliser des espèces de bornes interactives, des bornes avec des contenus audio? Parce que ça, c'est, on dirait, presque l'air du temps. Je ne voudrais pas être suiviste. Néanmoins, ça peut être intéressant de se mettre à l'air du temps et de se mettre à la page. Est-ce qu'il y a des projets de numérisation ou de proposer des contenus plus riches, multimédia, on appelle ça comme ça?
Alors, plus riches, pas forcément, mais en tout cas multimédia. C'est-à-dire, pour ce qui est d'une visite de musée, moi, c'est vrai que je suis très attaché à la visite guidée avec un guide, un être humain qui va s'adapter à son public, qui va pouvoir répondre à des questions, qui va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin quand c'est nécessaire, donner des explications quand manifestement le groupe n'a pas tout suivi. Enfin, cet aspect humain de la visite d'un musée, pour moi, est extrêmement important. Ça casse aussi un petit peu l'image du musée poussiéreux, où il y a des choses mortes qui ne bougent pas. Et avoir un être humain qui vous donne ses explications, qui vous met en rapport avec les humains du passé, qui vous fait revivre des époques, ça me semble extrêmement important. Après, le pouvoir d'évocation, notamment visuel, d'un être humain, est ce qu'il est. Et c'est vrai que les technologies actuelles, le multimédia, permet d'aller un petit peu au-delà. Et donc on travaille là-dessus. Alors il y a tout un travail qui est justement commencé avec les élèves latinistes du collège de Die, avec le prof de latin surtout, qui est un monument national là aussi, en tout cas un monument local.
D'érudition,
de dynamisme, d'imagination, d'idées et de travail physique. C'est Robert Delors, évidemment, qui organise tous les ans donc, ses voyages pour les latinistes dans le monde roumain. Et qui s'est lui aussi pris d'amitié pour ce musée et notamment les collections lapidaires, les collections épigraphiques. Et donc il travaille avec les collégiens pour réaliser des petits documents d'une trentaine de secondes ou une minute qui intègrent à la fois du texte et de la vidéo et qui permet de faire découvrir de façon différente, surprenante et quand même très humaine un certain nombre de textes latins, donc de ces inscriptions qu'il faut bien le dire, sont un petit peu compliqués pour les visiteurs, surtout quand ils n'ont pas fait du latin, ce qui est quand même la majorité du genre. Voilà. Donc il y a ce travail qui est en cours, sur lequel on avance doucement. C'est assez intéressant. On va continuer. Et puis il y a une autre idée qui est en l'air, sur laquelle on va travailler de façon concomitante, toujours avec les collégiens du Collège de Die, les latinistes. C'est de travailler sur un circuit sur les remparts. Les remparts de Die, bon, il y a un petit peu de travail à mettre en place avec la municipalité pour revoir les accès qui sont à l'heure actuelle très dégradés. C'est un travail qui est en cours. Et avec le collège, on va mettre en place là aussi, à partir de supports multimédia, sans doute des QR codes. C'est-à-dire là, ça passera par le réseau en direct avec un téléphone portable pour pouvoir accéder à un petit plus d'informations. Alors, je suis désolé, nous non plus, on n'est pas originaux. Pierre Sapé a parlé d'une vision des monuments un petit peu différente à base de drones. On a eu la même idée, ce qui n'est pas du tout original, parce que tout le monde va le faire. Alors, c'est pas parce que c'est pas original que c'est pas intéressant, parce que c'est vrai que le drone permet d'avoir une visibilité du monument qui est totalement différente. Et c'est vrai que faire une visite du rempart avec des haltes sur le parcours, sur le tracé de ce rempart, avec un QR code qui donne accès à des vidéos, qui permet justement de voir ce qu'on ne peut pas voir en étant par terre, et de faire le tour d'une tour du rempart, d'un bout de courtine, de mettre en valeur des éléments qui sont difficiles à voir parce qu'ils sont placés en hauteur. Je pense par exemple aux portes d'accès entre les tours du rempart et la courtine. Je pense aux fenêtres de surveillance du rempart romain. Il y a des éléments comme ça qui sont très ténus, qui sont difficiles à voir avec un drone. Et puis avec de la réalité augmentée, parce que là aussi on va travailler là-dessus, je pense qu'on va pouvoir avoir des visites du rempart sur les années qui viennent, qui seront extrêmement intéressantes.
Super, comme je suis un peu technophile malgré tout, j'attends ça avec impatience. Oui, alors, au bout de 31 ans de Journée du Patrimoine, c'est une manifestation qui a toujours autant de succès. On peut parler d'appropriation par la public, de toutes les propositions de visites, de monuments, etc. Ça draine toujours autant de monde.
Alors, clairement, j'ai pas les chiffres nationaux en tête, hein, évidemment. Ce que je peux dire, c'est les impressions qu'on en a localement. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des Diois qui vont à la découverte de leur propre patrimoine. Alors c'est vrai que sur le week-end, le programme peut paraître relativement chargé, d'autant plus que je n'ai parlé que de ce qui se passait à Die même. Je n'ai pas parlé de ce qui se passe dans le reste du Diois. Il y a le temple de Poney, le château de Ponté. Enfin, il y a énormément de choses à voir sur l'ensemble du territoire. C'est pas forcément évident de tout faire la même année. Et puis bon, de temps en temps, le week-end, on a peut-être envie aussi de partir aux champignons ou d'aller faire autre chose. Ce qui fait que, de toute façon, on a une découverte qui est renouvelée de la part des Diois sur leur propre patrimoine. Et comme je le disais un petit peu avant, on a aussi une tendance qui est quand même remarquable, qui fait que les gens ont commencé parce qu'il y avait justement sur leur pas de porte, et puis ils essaiment doucement. Donc on commence à avoir arrivé à Die depuis quelques années, pour les Journées du Patrimoine, des gens qui viennent de l'Isère, des gens qui viennent de l'Ardèche, des gens qui viennent du Vaucluse, enfin les départements voisins. Et en effet, avec le temps, petit à petit, les gens découvrent, rayonnent de plus en plus large, et on peut penser que d'ici quelques années, on verra arriver des gens d'autres régions. Bon, après, il y a toujours la limitation du temps de transport, le coût que ça engendre, le coût de l'hôtel, parce que tant qu'à faire le déplacement, autant coucher sur place. Donc c'est une tendance, mais c'est une tendance extrêmement intéressante. Et ça veut dire que justement, le public s'est saisi de ces Journées du Patrimoine. Le public a vraiment envie de découvrir les lieux qui lui sont fermés la plupart du temps. et redécouvrir les lieux qui lui sont ouverts le reste de l'année, mais qui peut découvrir aussi avec les animations proposées, avec les thèmes proposés, de façon un petit peu différente. Donc oui, de toute façon, c'est un succès.
Je voudrais mettre un petit bémol à ce que je disais. Je suis technophile, certes, mais ceci dit, je suis relativement d'accord avec toi comme quoi, effectivement, un être humain, un guide, apporte une véritable interactivité avec un public. Dans ces visites du patrimoine, il peut y avoir des guides comme il peut ne pas y en avoir. Hein, c'est selon.
Tout à fait. Il y a des visites guidées qui sont proposées, donc avec des gens qui connaissent bien l'histoire de leur monument, les particularités, les anecdotes, et qui vont rendre la visite beaucoup plus intéressante et attractive. D'autres visites sont faites de façon totalement libre, et certaines se passent aussi de commentaires. Alors sur le problème entre le guide humain et l'utilisation de la technologie, moi j'aurais tendance à dire que ça se complète très bien, c'est-à-dire qu'un guide humain va apporter quelque chose d'irremplaçable, l'humain est irremplaçable, mais si le guide humain en plus a une petite tablette sur laquelle il peut faire défiler des images et proposer des compléments d'informations, notamment visuels et animés, je pense à de la vidéo, du film d'animation, etc., pendant une visite guidée, c'est encore mieux. Donc pour moi, il n'y a pas d'exclusif dans l'usage de la visite. Un guide humain, de mon point de vue, est absolument nécessaire. Et les supports des nouvelles technologies apportent un plus qui est absolument évident et qui rend une visite inoubliable.
Voilà, inoubliable, c'est un beau terme. Et bon, je vous souhaite, chers auditeurs, d'aller passer des journées inoubliables aux Journées européennes du patrimoine qui auront lieu le 20 et 21 septembre 2014 dans un certain nombre de monuments et d'endroits naturels de la Drôme. Donc, écoutez, Monsieur Sapet et Monsieur Planchon, merci de nous avoir transmis toutes ces informations. Je rappelle que vous pourrez trouver un certain nombre d'informations sur la page dédiée à l'émission qui renverra sur les pages et du département et peut-être du musée.
De l'Office du Tourisme.
De l'Office du Tourisme de Die, dans lequel il y a tout le programme avec tout ce qui est ouvert, etc. Voilà. Jacques Planchon, Monsieur Sapet, au revoir.
Au revoir.
Et merci.
Merci.
Interview.
Hey, the bear.
L'interview du jour.